plateformes de streaming audio.
Écosystème, Florence Farion.
Une fois n'est pas coutume, nous allons accueillir un prof de chant dans Écosystème. Il chante, il fait chanter les autres, il les accompagne dans la recherche de leur voix, en leur donnant un souffle nouveau. Et je pèse mes mots, sa démarche est saluée dans le monde entier. Un livre aux éditions Favre et désormais un film documentaire qui sort le 9 février nous donne à suivre ce Robin des Voix, un homme étonnant, à l'histoire extraordinaire et qui nous veut du bien. Soyez donc les bienvenus dans Écosystème jusqu'à 14h. Bonjour Robin de Haas.
Bonjour.
Que vient faire un prof de chant dans Écosystème? J'ai envie de vous poser la question, c'est un peu provoque.
Eh ben, je crois que je viens passer un bon moment avec vous et puis partager un petit bout de mon chemin.
Bon, on va parler de la voix, on va parler de la voix qui chante, mais aussi on va parler de cette voix qui parle, de ce lien aux autres, de cette communication magique entre les êtres, puisque vous, prof de chant, enfin en tout cas c'est ce qui est affiché, vous travaillez aussi sur la voix parlée, sur cette manière de communiquer.
Oui, absolument. En fait, pour moi, la voix, c'est vraiment l'outil que... Enfin, le langage, disons, c'est... Mais même la voix avant le langage, hein, même dans les cris du bébé, finalement, c'est l'outil premier de communication. Et puis, c'est au travers de la communication qu'on évolue, qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on... Enfin, si on imagine un monde où on n'aurait pas de mots, on n'aurait que des grognements, on serait finalement encore des hommes des cavernes.
Alors il y a la voix, il y a aussi le rythme, enfin il y a beaucoup de choses dans la voix, le rythme, la manière dont on va articuler les choses, ce qu'on appelle la prosodie, tout ça est un cocktail, Robin de Haas, extrêmement subtil.
Il y a encore pour moi un sous-texte qui s'ajoute, dans le sens où nos cordes vocales, elles vont se fermer d'une certaine manière, vous savez... Quand on dit quelqu'un, ah, il a la gorge serrée, ou on dit, ah, ça me reste en travers de la gorge ou quoi, j'ai le sentiment que, en fait, dans comment notre voix s'exprime, pas seulement dans les mots, mais pas seulement dans le rythme, mais dans les sons qu'elle fait, en fait, ça raconte beaucoup plus de nous que ce qu'on pense. Par exemple, ça m'arrive de travailler avec certains chefs d'entreprise, et où, en fait, ils me parlent d'un sujet, et en fait, j'écoute leur voix, et quand leur voix change, ça m'indique des choses sur leur impression par rapport à ce sujet-là. Et je dis, mais là, votre voix est différente. Pourquoi? Vous avez l'air de moins y croire. Pourquoi? Qu'est-ce qui change là? Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette chose-là? Et on a des échanges parfois assez fascinants qui ont, dans certains cas, amené des personnes à prendre même conscience qu'en fait, il y avait un projet qui se sentait pas bien et qui s'était pas rendu compte.
Mais l'essentiel de votre travail est quand même d'accompagner, en dehors de cette parole, d'accompagner le chant. Robin de Haas, vous êtes vous-même prof de chant et vous avez, c'est ce qu'on va développer aussi dans cette émission, vous avez développé une méthode, on va dire, d'accompagnement qui s'intéresse à la voix, qui s'intéresse au souffle. Et tout ça, on peut le voir sur les écrans à partir du 9 février, dans quelques jours, dont va sortir un film. Je disais, c'est un film documentaire, c'est juste un film documentaire, on va l'appeler comme ça.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et puis, ça montre justement, ben, cette idée de Robin des voix. C'est aussi parce que, ben, en fait, d'une certaine façon, je travaille, alors bien sûr sur des chanteurs, mais en fait, au fond, aussi sur pas mal d'autres gens. Il y a aussi des universitaires, des hommes d'affaires. Ça peut être aussi des sportifs d'élite. On me voit, par exemple, avec un coureur dans le film. Parce qu'évidemment, ben, si on travaille le souffle, eh ben, tout à coup, si on respire mieux, on va avoir des meilleures performances de l'organisme. Donc, c'est finalement assez varié, en fait, les gens que je vois.
Est-ce que c'est, Robin de Haas, et on va revenir évidemment sur le film, mais votre réponse m'amène à une question. Est-ce que finalement, notre voix est un peu le parent pauvre de nos soucis? Est-ce que c'est le cadet de nos soucis, notre voix?
En tout cas, je pense qu'on en sous-estime beaucoup l'impact et la portée. J'ai travaillé pour des cadres à l'ONU. Et j'ai eu des expériences mesurables de l'impact d'un même discours dans deux années différentes. Donc un même discours qui est fait devant les mêmes personnes, par exemple pour une demande de budget ou des choses comme ça, et où en fait, si la voix est mieux utilisée, on peut quantifier vraiment une énorme différence de réception et ça change tout en fait au niveau de comment c'est accueilli et des conséquences que ça a cet accueil.
Et que ça aide à se développer vraiment sur tous les plans, et c'est vraiment ce qu'on comprend dans votre film, c'est-à-dire que, et on y reviendra encore une fois, hein, vous travaillez beaucoup sur le souffle, et qu'à partir du moment où il y a une sorte d'alignement ou de grandissement, j'ai envie de dire, de où on prend conscience vraiment de ce souffle, ça, c'est comme en fait un jeu de domino, ça va bouger une pièce et ça va en bouger plein d'autres par la suite.
Ben, vous avez cette image des dominos. Moi, j'aime aussi bien l'image de la montre à mécanisme de précision suisse, étant suisse. Et du coup, cette idée qu'on a tous ces petits rouages comme ça. Puis effectivement, ben, s'il y a un petit rouage qui est pas tout à fait dans son axe, ça bloque tous les autres. Et en fait, par rapport au souffle, eh bien, c'est la même chose qui se passe dans notre cage thoracique. Si on a certaines côtes qui participent pas au geste et qui bougent pas, ça peut complètement nous coincer. Alors que si on les invite par quelque chose de tout doux, hein, mais en leur disant, peut-être ça peut aussi bouger ici, puis en guidant doucement, finalement elles s'ouvrent à ce possible, et ben tout à coup tout devient un peu logique. Il y a quelque chose qui circule et ça se met à fonctionner.
Vous travaillez aussi avec le corps médical, je crois. En tout cas, il y a des médecins du CHUV qui vous envoient des personnes qui ont tout simplement peut-être perdu leur voix ou en tout cas qui ont des pathologies extrêmement graves autour de la voix. Vous allez jusque-là.
Ce que je fais, c'est d'identifier les ressources que la personne a qu'elle emploie pas. En fait, je ne suis pas médecin, je vais pas pouvoir guérir quelque chose qui est abîmé, mais en fait, si on y réfléchit, le corps, il a des capacités incroyables d'auto-guérison. Par exemple, imaginons que vous faites une chute à vélo, et puis vous vous égratignez le genou. Donc, votre corps, en fait, il va savoir guérir ça. Mais, si par contre, dans le moment où ça saigne, vous arrêtez pas de frotter sur la blessure, eh bien, la croûte, elle pourra pas se constituer. Donc, en fait, vous allez empêcher ce phénomène d'auto-guérison du corps. Moi, c'est là que je peux aider quelqu'un avec sa voix. Parce que si dans la manière dont il l'emploie, il continue tout le temps de se fatiguer, eh bien, le corps peut pas se régénérer. Et donc, en enlevant les facteurs irritants, par exemple dans l'utilisation du langage, donc comment la personne gère sa cage thoracique, gère sa soufflerie pour parler, si j'arrive à régler ça et que j'enlève le facteur irritant, eh ben tout à coup le corps, boum, il peut guérir tout seul.
Si on pense, Romain de Haas, au silence, par exemple, je ne sais pas si c'est une légende ou une réalité, que quelqu'un comme Céline Dion, par exemple, s'est imposé pendant je ne sais plus combien de temps, mais pour essayer de recouvrer sa voix ou en tout cas de la ménager, c'est quelque chose de réel. Il faut parfois ménager son outil jusqu'à se taire.
Alors, il y a différentes idées hein, là-dessus. Ce que je constate, c'est que la voix, elle se fatigue lorsque il y a trop de friction. Ce serait un peu comme si vous frottiez vos deux mains l'une contre l'autre, vraiment très fort et rapidement. Si vous le faisiez hyper vite et hyper fort, ça chaufferait beaucoup, puis vous finiriez par avoir une cloque. Et en fait, ça, c'est quand on ferme les cordes vocales trop fort l'une contre l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est généralement parce qu'on souffle trop d'air, et du coup, elles se ferment trop fort pour résister en fait à cet air, vu qu'elles compriment l'air. Hein. C'est comme une petite valve qui comprime, comme un moteur de voiture, finalement. Et donc, en fait, pour moi, le repos vocal de type silence, c'est un peu le dernier recours, mais ça veut dire que dans les jours précédents, on a vraiment été trop fort et que peut-être, si on avait mieux équilibré nos mouvements, notamment en tenant compte du corps, en tenant compte des côtes, etc., on n'aurait peut-être pas eu besoin de ce silence. J'ai eu l'occasion d'aider des gens qui sont justement dans ces domaines-là du chant qu'on appelle des musiques actuelles ou aussi des imitateurs qui doivent faire une gymnastique pas possible avec leur voix, qui régulièrement avaient des fatigues et qui en fait une fois qu'ils apprennent à vraiment utiliser leur instrument de façon efficace, eh ben ils ont plus du tout ces fatigues en fait qui surviennent. Donc on a vraiment des ressources fantastiques dans nos corps et encore une fois j'insiste. Moi ce que j'apporte aux gens c'est la prise de conscience de ce qu'ils font quand ils font juste. Donc je les amène à une ressource qu'ils ont déjà en eux.
Ça fait combien de temps, Robin de Haas, finalement, que vous êtes tombé là-dedans? On va remonter, on s'était vu, c'était à la sortie de votre livre, on était en 2016, je crois, livre aux éditions Favre, La Voix de la Voix, et vous aviez déjà une certaine expérience, une expérience certaine. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 ans, d'ailleurs? Tellement de choses, vous allez me dire.
Oui, ça a continué à grandir, beaucoup. Alors, il y a eu la période assez faste, je dirais, de 2016 à 2019, où ça a beaucoup grandi aussi à l'étranger. J'ai fait par exemple toute une tournée de masterclass en Australie. Ça a continué de grandir aussi à Los Angeles, à Londres aussi, à l'Institut ICMP, qui est une superbe école pour les auteurs-compositeurs-interprètes et où j'ai été invité plein de fois. Enfin, donc plein de belles choses. Et puis bien sûr, après, la pandémie est arrivée. Donc du coup, les voyages à l'étranger se sont arrêtés. Là, ça reprend gentiment maintenant. Et puis, il y a eu ce tournage de film aussi. Et je me suis aussi marié entre deux. Donc voilà, merci. Voilà, la vie a été trépidante à plein d'égards. Mais disons que j'avoue que je suis assez heureux que là, les choses semblent se délier un peu en termes international, en termes de voyage et de possibilités de travailler avec des groupes, etc. Ça, c'est vraiment super.
Et tout ça en partant d'un petit endroit de Suisse où vous êtes né, c'est ce que raconte le film et on va en parler. Juste après un peu de musique, Robin de Haas est notre invité jusqu'à 14h. La Voix de la Voix, paru aux éditions Favre, c'est un livre que l'on trouve toujours. Et puis ce film, Robin des Voix, à voir à partir du 9 février, mais avant aussi, puisqu'il y a toutes sortes d'avant-premières. Alors on va donner quelques dates, Robin de Haas, mais on pourra pas tout donner. Dire que ce film est signé Frédéric Conzette et Catherine Azad. Vous pourrez le voir à Sainte-Croix le 29 janvier, donc aujourd'hui même, ce soir à partir de 18h. À Fribourg, au Rex, ce sera pour dimanche. D'Élément à la Grange, dimanche aussi à 17h. Je ne vais pas tout donner parce que ça va être fastidieux, mais Robin des Voix, c'est le site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne. On se retrouve dans quelques minutes. Elle aussi avait un fils qui chante comme la maman de Robin de Haas, c'est Juliette Gréco, Mon fils chante.
Pour ceux qui entrent dans la danse, au nom de la grande espérance, au mépris de leur vie, mon fils chante. Pour ceux qui luttent pour la vie, sans autres armes que leur vie, pour qu'ils vivent longtemps, mon fils chante. Pour ceux qui combattent la nuit, pour le jour où le soleil luira, pour tous les hommes, mon fils chante. Pour ceux qui meurent en chemise, à l'aube du temps des cerises, sous les yeux des fusils, mon fils chante. Mon fils, et toi le fils qui naîtra. Que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter. Pour ceux qui poussent sans espoir la porte étroite de l'histoire, au nom de l'idéal, mon fils chante. Pour ceux qu'on traîne dans le noir, sur le sol du dernier couloir, des chambres de torture, mon fils chante. Pour ceux qui ne verront jamais plus le soleil rouge de mai, sur le port du Pirée, mon fils chante. Pour ceux qui jusque dans la mort ont la force de vivre encore, pour ceux qui vont vivre, mon fils chante. Mon fils, et toi le fils qui naîtra de mon fils tant que meurt la liberté. Pour que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter.
Robin de Haas est notre invité aujourd'hui jusqu'à 14h, professeur de chant. Ça, c'est ce que vous mettez sur votre carte de visite, Robin de Haas. Ou pas, d'ailleurs.
Non, en fait, j'ai plutôt mis consultant vocal. C'était un nom un peu alambiqué, comme ça, qu'on m'a proposé à l'époque, quand j'allais à l'ONU, parce que je pouvais pas être prof de chant à l'ONU, évidemment, pour ces pontes qui devaient parler en public. Et en fait, j'avoue, j'ai assez aimé ça. Consultant vocal, parce que ça donne une impression de quelqu'un qu'on consulte pour sa voix et avec qui on discute de ça et on regarde ce qui se passe et j'aime bien.
On n'a pas encore dit ce mot de MDH. MDH, c'est l'abréviation en fait du nom de cette méthode. Est-ce que vous appelez ça d'ailleurs méthode, cet accompagnement de coordination respiratoire?
Le MDH, c'est pour Martin et De Haas, Martin and De Haas, parce qu'en fait, ma prof à New York, elle s'appelle Lynn Martin. ben cette femme, elle m'a vraiment partagé tout ce qu'elle avait compilé comme données dans ses recherches sur le souffle, parce qu'elle a vu que j'avais des facilités pour ça. Quand on a commencé à devenir un peu plus reconnu, et on s'est dit, bon, ben, comme il faut quand même la lier à quelque chose d'identifiant, on va juste mettre nos initiales. Et alors, on a mis MDH. Ça nous a paru le plus simple.
On peut en dire quelques mots de cette femme qu'on découvrira d'ailleurs si on va voir votre film, si on va voir ce film Robin des Bois, signé Catherine Azad et Frédéric Gonzette, qui sort, je le rappelle, le 9 février avec des avant-premières que vous pouvez évidemment croiser dans chaque canton. Vous allez faire le tour des cantons. Mais cette femme, Lynn Martin, vous êtes allé la voir parce que, ben, qu'est-ce qu'on va dire en très raccourci, vous aviez travaillé votre voix, vous chantiez, on en était fort aise, mais il y avait un truc qui coinçait, quoi. Et vous êtes tombé en fait sur des écrits qui vous ont envoyé à elle. Ce n'est pas elle que vous aviez contactée tout d'abord. Enfin, c'est un joyeux hasard de la vie, Robin de Haas.
Ouais, on peut tout à fait dire ça. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie. C'est une femme incroyable. Je souhaite à tout un chacun de rencontrer des gens comme ça dans notre vie. C'est vraiment une personnalité hors norme, dans ce sens que elle-même a eu un prof qui l'a aidée au niveau justement de sa coordination respiratoire, de ce travail sur le souffle. Ce prof, en fait, s'appelait Karl Stau. C'était un intuitif, lui, un espèce de génie. Et en fait, il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il faisait ni à former des gens. Et Lynn, pendant 25 ans, elle l'a regardé faire. Puis elle, étant anatomiste de métier, elle s'est dit, mais attends, quand il bouge là, moi je crois qu'il touche tel muscle, et tel muscle, et tel muscle. Quand il bouge la jambe comme ça, en fait ça touche le souffle comme ça, ça touche telle chaîne musculaire. Et puis moi, de mon côté, j'avais vraiment une fatigue vocale, c'est-à-dire ma voix fatiguait très très vite. En fait, je pouvais pas me permettre de faire des erreurs, parce que étant né assez gravement handicapé de la voix, j'ai une voix beaucoup plus fragile que d'autres. Et en fait, Lynn, quand elle m'a fait la séance, elle m'a mis sur sa table, elle m'a touché la cage thoracique, et puis elle m'a dit ce qui se passait. Donc, contrairement à tous les masterclass que j'avais suivis jusque-là, j'étais allé un peu dans le monde entier où on me disait en fait, tu n'as pas compris, mais tu devrais faire ça. Il y avait un peu des combats de chapelle comme ça. Et Lynn, pas du tout. Et en fait, avec vraiment un respect inouï, où elle me disait oui, mais c'est juste, c'est déjà en toi ça, mais c'est juste que tu savais pas où c'était. Et donc il y a eu cette rencontre comme ça. Et puis alors, ce qui était vraiment assez poétique d'une certaine façon, c'est que moi, de mon côté, je donnais déjà des cours de chant, mais je les donnais d'une manière bizarre par rapport à ce qu'on apprenait à l'école, puisque je travaillais déjà avec le toucher sur les cages thoraciques des gens, parce que intuitivement, j'avais senti que si ça coinçait, la voix elle coinçait. Et en fait, quand elle a travaillé sur moi, j'ai dit, mais c'est fou, ça ressemble à ce que je fais sur les gens. Alors, lors de la deuxième leçon, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu m'autoriserais à travailler sur toi, puisque j'aimerais te montrer ce que je fais sur les gens pour que tu me dises si je fais des bêtises. Et en fait, j'ai fait ça. Elle m'a dit, mais Robin, tu fais les mêmes choses que mon prof qui est décédé. Elle a dit, mais si tu veux, je vais te passer toutes les hypothèses fonctionnelles que j'ai fait en le regardant, parce que tu fais la même chose, c'est complètement fou. Et ça a été cette rencontre qui a changé ma vie.
Parce qu'en fait, elle travaillait sur le chant déjà, ou c'est vous qui avez amené cette couche de plus? Elle travaillait, voilà, sur la coordination respiratoire, elle travaillait sur tout ça, mais est-ce que le côté chant, c'était quelque chose qu'elle pratiquait déjà?
Eh bien, beaucoup de gens qui s'intéressent à la coordination respiratoire viennent du monde du chant. C'était pas son cas à elle, hein. Elle vient du monde de la danse. Donc, je dirais qu'elle avait déjà eu des élèves chanteurs, mais elle disait bien qu'elle-même ne se considérait pas comme une prof de chant. On a souvent des gens maintenant qui parlent d'elle comme une prof de chant, mais elle dira toujours, elle, hein, qu'elle n'est pas prof de chant du tout. Puisque pour elle travaille la coordination, mais par contre, elle adore tout ce qui est la voix chantée, etc. Elle est admirative de ce que la voix humaine peut faire et se cultive beaucoup dans ce domaine-là.
Alors, et vous y faisiez allusion, ce rapport au corps, et c'est vrai que dans les images du film, on voit, pour ceux qui vont aller découvrir le film, évidemment, on va pas rentrer trop dans le détail non plus, parce qu'il y a plein de surprises finalement, mais ce qu'on voit bien dans le film, c'est qu'il y a quand même une approche, je dirais que c'est un peu comparable ou pas, d'ailleurs, Robin de Haas, à de l'ostéopathie. C'est juste ou pas? Il y a une forme d'apposition comme ça des mains, de léger, enfin tout est très doux, mais on travaille avec les doigts, on travaille avec toutes les parties du corps, les jambes, il n'y a pas seulement la cage thoracique, c'est un peu tout. Comparable ou pas avec de l'ostéopathie?
Alors, c'est une excellente question. Je dirais que ça dépend un petit peu de quelle ostéopathie on parle, parce que dans le courant ostéopathique, on va avoir deux grandes lignes hein, qui vont se démarquer.
J'ose dire crac-crac ou pas crac-crac, c'est ça?
Exactement. On a l'ostéopathie crac-crac qui s'appelle la structurelle, et puis l'ostéopathie douce, ou qui part du principe plutôt de refaire fonctionner, qui s'appelle justement l'ostéopathie fonctionnelle. Donc le pas crac-crac, pour le dire dans un mot facile. La coordination respiratoire est une approche fonctionnelle et éducative. Ça veut dire là où on est différent d'un thérapeute, nous en coordination respiratoire, on a une approche éducative pour passer d'un état normal ou en dessous pour aller vers l'optimal.
Et quand vous dites que c'est vraiment une vision holistique, vous parliez des jambes, et on le voit dans le documentaire d'ailleurs, bah, à travers les jambes, on sait aussi comment on souffle, enfin comment on respire, je trouve ça hallucinant, ça va jusque dans le bout de nos pieds, c'est vraiment tout notre corps qui dicte notre souffle.
Si, alors je ne vais pas inviter tous les auditeurs à aller disséquer des cadavres, hein, c'est pas le propos, mais si on regarde à l'intérieur comment on est fait, il y a effectivement des liens musculaires en fait entre des muscles qui s'attachent aux jambes, et des muscles qui sont des voisins immédiats du diaphragme, qui est le gros muscle du souffle. Et du coup, quand on voit ça, en fait, anatomiquement, ça fait complètement sens de faire l'hypothèse qu'on peut relier le souffle à les jambes. Si on libère les jambes, après, le souffle descend jusqu'au plancher pelvien sans souci.
Mais est-ce qu'on peut, alors, je dirais à titre individuel, être attentif à certaines postures? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte de réflexion, d'auto-réflexion, d'auto-analyse que l'on peut déjà tenter, Robin de Haas, ou petite expérience, je sais pas, quelque chose qu'on pourrait partager, tenter dans son coin?
Pour moi, la réponse à cette question, la réponse la plus fondamentale, c'est la notion d'hyperinflation partielle chronique. Une espèce d'état de boulimie d'air, autrement appelé parfois le stress. Ça veut dire, quand on a du stress, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre corps animal, il réagit pour qu'on puisse fuir. Et du coup, pour qu'on puisse fuir, il nous faut une augmentation, une prise d'air. Donc on fait, si je me cache derrière une porte et je vous fais bouh, vous allez faire et vous prenez de l'air. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le stress qu'on vit au quotidien, le stress parce que j'arrive en retard au travail, parce que mon patron est désagréable, parce que peu importe. En fait, ce stress-là, c'est pas un stress qu'un corps mammifère, il peut comprendre. Donc, du coup, il finit jamais. Vous voyez, si je suis un mammifère et qu'il y a un prédateur, j'ai peur, je cours, et puis je me suis sauvé, et c'est bon. Et du coup, je suis sauvé. Donc après, je vais faire, ah, et je vais expirer. Tandis que nous, en fait, on accumule parce qu'il y a le patron, parce qu'il y a le retard, parce qu'il y a peut-être les enfants à aller chercher à l'école, il y a ça. Et on est dans un état de boulimie d'air, où on se gonfle en fait. On va se sentir pas bien, on va sentir une pression dans notre torse, on va se sentir justement à bout de souffle un peu, et ça touche tellement de gens. Et ça, si on pouvait l'identifier, déjà voir qu'en fait, ce qu'on appelle le stress, quand on dit « ah mais je suis stressé, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre », qu'en fait très souvent, en fait, si on pouvait réaliser qu'on a pris déjà trop d'air, et puis juste là, se laisser souffler. Se dire, mais en fait, mon corps, il essaye de me protéger d'un prédateur, donc il est, c'est super ce qu'il fait, et ce serait fantastique si j'étais une gazelle qui devait échapper à une lionne, mais en fait, c'est pas utile par rapport à ce qu'on appelle la prédation symbolique, ou danger symbolique, qui sont donc pas des dangers physiques imminents. Et donc de se rappeler ça et de se dire, ok, oui, j'arrive un peu en retard au travail et je le fais en expirant. Lynn, elle a cette phrase qui est tellement jolie. Elle dit « When in doubt, breathe out ». Ça veut dire, si on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire, expirez. il vaut mieux expirer. Donc, et expirer, comme le fait le corps quand il est hors de danger, c'est une expiration douce et non forcée. Donc, c'est un petit débit d'air régulier. Sortir l'air doucement, ça peut être sur un petit S, un petit F, juste des... se laisser souffler un peu. Et rien que ça, calmement, en disant, ben voilà, si je suis très stressé, peut-être mon expire sera court, hein, peut-être ça fait, ah, oh là là, il y a eu beaucoup. Ouh, oh. Et petit à petit, on rallonge gentiment. Mais on rallonge au rythme de notre corps, en sachant qu'on aimerait simplement aller vers cet allongement du souffle, parce que c'est ça qui va aussi aider notre corps animal à comprendre qu'il n'y a pas de prédateur physique juste à côté. Et ça, c'est important.
C'est marrant parce qu'en vous entendant, je pense à ces deux expressions qui me viennent comme ça, qui sont à bout de souffle et trouver un deuxième souffle. comme si la langue nous permettait déjà de le verbaliser, de le formaliser, comme si on le savait.
Absolument. Ah oui, mais ça, j'en suis convaincu.
Ouais.
Et pour moi, ce deuxième souffle, justement, c'est lorsqu'on sort de cet état de prédation symbolique, de danger symbolique, et qu'on réalise, non mais c'est bon, si je suis en retard au travail, j'ai toujours un toit sur ma tête, j'ai à manger, j'ai une famille, j'ai des gens que j'aime, j'ai des amis, tout va bien. J'ai pas besoin de me mettre dans un état où en fait je m'agite pour ça. Et souvent, hein, on a des méthodes qui disent, voilà, il faut penser positif, etc. Mais moi, j'y arrive pas si mon corps est en état de vouloir partir en courant.
En tout cas, vous êtes passionnant, Robin de Haas. Nous parlons aujourd'hui du souffle, nous parlons aujourd'hui de la voix, vous l'avez entendu, La Voix de la Voix aux éditions Favre. C'est le livre qu'a écrit Robin de Haas il y a quelques temps déjà, mais que vous pouvez encore trouver. Et puis, il y a ce film Robin des Voix, sur lequel on va revenir, qui est signé Catherine Azad et Frédéric Gonzette. Un film documentaire qui sort le 9 février, mais qui est en avant-première. Je vous redonne quelques autres dates. J'ai été jusqu'à... Non, je crois que je ne vous ai pas dit Genève, le 31 janvier. Neuchâtel, ce sera le 1er février. Monté, le 2 février. Et toutes les autres dates à venir sont aussi sur le site Robin des Voix. On se retrouve dans quelques minutes, Robin de Haas.
It's a Monday. It keeps me alive.
U2 sur la première des voix pop reconnaissables entre mille, celle de Bono, Your Song Saved My Life.
Égosystème, Florence Farion.
Robin Dehas, aujourd'hui nous parlons de La Voix jusqu'à 14h. La Voix de la Voix, Robin des Voix, ce film documentaire à découvrir sur les écrans romans à partir du 9 février. Tout ce dont vous nous parlez a démarré, votre histoire a démarré, et c'est ce que raconte le documentaire dans un petit coin de Suisse. Et vous y faisiez allusion de manière assez brève, mais c'est vraiment le départ du documentaire, Robin Dehas. La voix, c'était quelque chose de très compliqué pour vous à la naissance, puisque vous êtes né avec une fente palatine qui est en fait ni plus ni moins qu'un gros empêcheur de parler, Robin Dehas.
En fait, ça permet pas de faire les consonnes et les voyelles correctement, ce qui fait que quand j'étais enfant, c'est un peu terrible à dire, hein, mais peut-être on connaît pour certains les gags, les plaisanteries avec ouin ouin qui n'arrivent ni à faire les consonnes ni les voyelles, hein, comme ça. Ben, en fait, c'était un peu ça ma voix. Je pouvais ni faire les consonnes ni les voyelles, tant et si bien que ma sœur devait traduire ce que je disais pour mes parents, parce que même on comprenait vraiment pas quoi quand j'étais petit. Et puis il y a eu énormément d'opérations pour arriver petit à petit à quelque chose qui commençait à être audible, compréhensible par les autres. Ça a vraiment façonné tout le début de ma vie. Un enfant qui peut pas faire les consonnes ni les voyelles, c'est compliqué quand même en termes d'école, et peut-être encore plus à cette époque-là. Peut-être maintenant, avec il y a des aspects plus inclusifs qui seraient peut-être différents, mais effectivement, non, ça a été assez complexe, ouais.
Il y avait quelque chose de très douloureux d'ailleurs, et vous ne vous en cachez pas. Il y a un moment extrêmement émouvant où vous dites que quand vous aviez 8 ans, vous aviez envie de descendre de tout ça. C'était insupportable au point que vous ayez eu envie de vous ôter la vie.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà assez sensible. Hein. Par exemple, j'écrivais des poèmes. Je voulais lire mes poèmes aux autres. Et en fait, quand j'y allais, eh bien, généralement, je me prenais une beigne, quoi. Je me prenais un coup. Et des rires et des moqueries, et où on me parlait en se bouchant le nez, en imitant ma voix. Et du coup, je me suis trouvé devant cette impossibilité d'avoir un désir de dire, un désir de poésie, un désir de sensibilité, un désir d'être touché par les choses et rencontrer, en fait, une espèce de, quand même, une violence un peu sourde en face. Et je me rappelle vraiment être monté à l'endroit où j'aurais pu sauter. Et puis m'être dit, mais non, je veux pas le faire parce que ça va faire trop de peine à mes parents. Et puis là, je me suis dit, mais alors, si je continue à vivre, ça peut pas rester comme ça. Faut que je me concentre, faut que j'ignore ce qui est mauvais et que je cherche l'amour partout. Et j'ai d'ailleurs réalisé un peu plus tard qu'il y avait même des choses que j'avais presque occultées après, oubliées en fait, les choses dures, pour juste me concentrer sur chercher l'amour, quoi, chercher la bienveillance, chercher dès qu'il y avait un tout petit bout d'un tout petit espoir d'un tout début, même si après par exemple une personne était bienveillante à un moment et après se remoquait de moi, je me souvenais juste du moment où elle était bienveillante et je me disais bon, il y avait au moins ça, il y a au moins eu ça.
Mais faut être de quel bois justement, parce que votre exemple il est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que c'était l'amour de vos parents, vous le dites, mais cet amour, c'était un amour inconditionnel, c'était un soutien inconditionnel qui a fait que vous teniez à la vie, parce que c'est quelque chose, enfin c'est le grand mystère de la vie. Pourquoi est-ce que des enfants passent à l'acte? Pourquoi d'autres résistent comme vous? On est vraiment sur cette puissance du lien.
Alors je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, j'ai vécu depuis tout petit des moments absolument extraordinaires dans la famille de mon papa aux Pays-Bas, avec une grand-maman qui, en fait, pour qui j'ai d'ailleurs écrit une chanson qui est dans le film. Ma grand-maman, c'était une dame pas très très grande, et quand j'arrivais, je courais vers elle, et à la taille que j'avais, ma tête était exactement pile à l'endroit entre ses deux seins, et je me cachais comme ça, elle me serrait dans ses bras, et je me cachais dedans, et là, c'est une des premières, je me rappelle m'être senti en sécurité. Que là, je savais que personne pourrait se moquer de moi. Personne pourrait me frapper, personne pourrait rire de moi ou comme ça. Et puis, cette grand-maman, c'était ma famille dans ma famille des Pays-Bas. C'est une famille de constructeurs de bateaux. Depuis, peut-être, je crois, on a le chantier naval, il est là depuis 200 ans à peu près. Et en fait, on allait voir le chantier, les nouveaux bateaux. Et puis, mes grands-parents, ils organisaient, quand on était là, pour eux, c'était une fête, parce qu'on venait de Suisse, alors ils organisaient une sortie en bateau. Et puis, sur la sortie en bateau, il y avait des tartines avec du beurre et des petits chocolats qu'ils mettaient dessus. Et il y avait comme ça toutes sortes de choses qui étaient une espèce de don d'amour perpétuel. Et j'ai vécu ça vraiment comme une sensation que, OK, il y a des moments dans la vie qui peuvent être magnifiques. Ça peut être extraordinaire et superbe. Et ça, je veux vivre comme ça. Et je veux chercher ça. Et puis, le deuxième élément, qui je pense est clé, c'est que ma souffrance, je l'ai vécue en lien avec des agressions extérieures. Mais je ne sais pas exactement pourquoi, comment. Peut-être par l'amour de mon père, qui m'a beaucoup estimé, qui m'a toujours dit que j'étais un gamin qui avait un bon cerveau, qui était intelligent, enfin, etc. Et que je valais quelque chose. Mais je me suis jamais agressé moi-même en me disant que j'étais nul, que c'était pas contre moi. Parce que ce que je vois parfois chez des gens qui souffrent, c'est quand eux-mêmes se mettent une pression monstre et se disent qu'ils sont absolument nuls, qu'ils ne valent rien, et peu importe qui leur dit que non, c'est pas le cas, ils s'agressent eux-mêmes. Et ça, j'en ai été quand même passablement protégé, puisque moi, ben, j'ai eu envie de mourir parce que tout le monde me faisait mal. Bien que, bien sûr, ma mère, ma sœur ont été fantastiques, hein. Mais du coup, je crois que le fait que moi-même, je me disais, mais c'est pas juste ce qui m'arrive, eh bien, ça m'a protégé.
Et où qu'il y avait une sorte de grand parapluie, en fait, sous lequel vous étiez à l'abri, et au chaud, et au sec. Et que quand vous fermiez la porte, quand je vous entends, je pense aussi à ces enfants aujourd'hui victimes de harcèlement, puisqu'on met ce mot de harcèlement, Robin de Haas, hein, sur ce que vous avez vécu, et qui continuent aujourd'hui, à travers les outils, les réseaux, les téléphones, qui continuent à subir ce harcèlement quand ils sont à la maison. Ce qui fait aussi certainement une sacrée différence.
Absolument. D'ailleurs, pour ma part, je recommande, en l'occurrence, enfin, pour la petite histoire, avec la coordination respiratoire, j'accompagne pas mal de femmes enceintes, puisqu'elles ont souvent le souffle court, et alors ça aide beaucoup pour s'approcher de l'accouchement en étant confortable. Et en fait, j'ai souvent un mot pour elles, de limiter au maximum toutes les interactions avec le monde extérieur une fois qu'on est à la maison. Et je trouve que ça, c'est une chose vraiment importante. Et peut-être que certains diront, mais enfin, il est complètement badadia, il est fou, c'est plus du tout actuel ça, etc. Mais je trouve très très important, s'il y a violence dans le monde extérieur, que ça s'arrête au moment où on rentre chez soi, pour donner un peu de répit. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de parler du handicap et des violences subies, etc. Si je pouvais faire que quelqu'un d'autre n'ait pas à le vivre, ou que quelqu'un qui le vit ne baisse pas les bras, ça en aura valu la peine.
Je ne peux pas m'empêcher de penser, pardon, que cette souffrance-là, elle a créé l'homme qui nous parle aujourd'hui. Évidemment.
Ah bah oui, oui, c'est sûr.
Mais vous avez eu des ressorts, vous avez tricoté votre résilience. Est-ce qu'on met ce mot-là, d'ailleurs, Robin de Haas ?
C'est un mot, en tout cas, dont on parle beaucoup, qui a été... Ben évidemment, beaucoup popularisé par Cyrulnik, Boris Cyrulnik, et autres et d'autres gens. Hein. J'en ai aussi parlé avec le professeur François Ansermet, qui est une personne pour qui j'ai une énorme estime. Oui, tout à fait. C'est la résilience dans l'idée d'une capacité à transformer une énergie qui nous est donnée, une situation, et à la tourner en quelque chose de positif. Je pense que c'est le mot qu'on emploie en tout cas assez couramment de nos jours.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que pour avoir lu votre livre, La Voix de la Voix, paru aux éditions Fabre, et quand on s'était rencontrés, c'est vrai que je me demande si je vous avais demandé d'où tout ça venait. Et en fait, vous ne l'expliquiez pas, mais vous l'avez raconté dans le film Robin des Voix.
Oui, alors moi, pour moi, c'était un tabou. Hein. Je parlais pas du tout du handicap. Déjà, j'avais quand même aussi un peu honte de tous les coups que je m'étais pris. J'ai fini plusieurs fois à l'hôpital, tout ça, puis il y avait quelque part en moi où peut-être une toute petite partie de moi qui se disait, mais au fond, si on m'a frappé comme ça, c'est peut-être que j'étais quand même pas tant une bonne personne que ça, ou pas digne d'être apprécié ou comme ça. Et puis un jour, Catherine Azad, la cinéaste, elle est venue prendre une leçon de chant. Et puis il se trouve que Catherine, elle connaissait mon père, parce qu'ils avaient un peu plus ou moins dans les mêmes groupes d'âge, quoi. Et puis elle me dit comme ça, mais ça vient d'où cette passion pour la voix, tout ça. Et moi, mon père, je savais qu'il avait parlé à ses amis de mon handicap et de comment ça l'avait travaillé aussi de m'accompagner avec tout ça. Et en fait, du coup, moi j'ai dit à Catherine, oui bon bah tu vois avec le handicap, c'était quand même un sacré chemin. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Et là je me dis, oh non.
En fait, zut.
Voilà, exactement. Je me dis, bon bah ok, bon voilà. Et là, elle me dit, mais Robin, ça, c'est incroyable comme histoire. C'est complètement fou. Et là, je réalise en parlant avec elle qu'effectivement, peut-être de raconter ça, ça peut aider des gens à pas baisser les bras. Et que peut-être il y a là quelque chose qui peut apporter quelque chose. Et là, du coup, je change d'avis. Puisque pour moi, c'était hors de question d'utiliser ça comme un levier, par exemple, pour me faire connaître. Ça, c'était absolument impossible dans ma tête. J'avais besoin d'être digne, de dire, j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé ça. Carl Stau était un génie, Lynn Martin, elle a trouvé ses hypothèses qui sont absolument extraordinaires, et je souhaite partager ça avec vous parce que je trouve que c'est des gens qu'il faut honorer. Moi, j'ai eu envie d'aller comme ça. Et pour moi, c'était vraiment hors de question de ramener la chose à moi. Ça m'aurait paru complètement stérile. Mais en fait, des années plus tard, une fois que la reconnaissance finalement internationale était là, dans cette discussion avec Catherine, j'ai dit, bah oui, bon, mais là, finalement, la reconnaissance, elle est là, donc ça voudrait pas dire que j'utilise ce qui m'est arrivé comme un levier. Ce serait vraiment pour aider des gens. Et là, j'ai beaucoup réfléchi, ça a été un gros débat interne, et après, je me suis dit, non, mais en fait, ok.
Il faut le dire, il faut en parler. Robin des Voix, c'est le film qui sort le 9 février, que vous pouvez voir en avant-première. Il est signé Catherine Azad et Frédéric Gonzède. Il y a un site, Robin des Voix, pour aller voir la bande-annonce. Vous verrez, c'est coloré, c'est gai, c'est plein d'émotions. Et vous allez aussi vous rendre dans les salles. Vous pouvez voir, il y a plein d'avant-premières. Robin des Voix, c'est notre invité jusqu'à 14h. Nous n'en avons pas fini. Encore un petit moment, le temps passe trop vite, mais on se retrouve dans quelques minutes.
Me dira toujours tout qu'à demi-mot. Je me perds dans la folie des nuits mauves. Ne crois pas que la vie est faite en rose. Nous deux, un jour tout s'écroule comme domino. Des animaux en cage, on est des fauves. Mais partir ou rester, il faut qu'on ose. C'est le brouillard, je te vois plus, c'est mieux. Embrouille d'un soir, le matin je m'en veux. On se dit les choses qu'à demi-mot. Qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ce jeu? Fais ce que tu veux. Ego m'a piégé dans une prison. Bien plus de fierté que de raison. Mais qui domine, je me demande, on se ment à soi-même. Et à nous deux, j'en ai ma dose, je ressens doucement notre peine. Au fond des yeux, tu me diras toujours tout qu'à demi-mot. Je me perds dans la folie des nuits mauves. Ne crois pas que la vie est faite en rose. Nous deux, un jour tout s'écroule comme domino. Je crois que tout se mélange comme un cauchemar, y a plus de sens. Je voulais crier, mais le silence me réduit à garder ce que j'ai. Au fond de moi, au fond de nous, il n'y a plus rien, mais on s'en fout. Tu me diras toujours tout qu'à demi-mot. Je me perds dans la folie des nuits mauves. Ne crois pas que la vie est faite en rose. Nous deux, un jour tout s'écroule comme domino. Des animaux en cage, on est des fauves. Mais partir ou rester, il faut qu'on ose. Thank you.
demi-mot, Méa sur la première. Égosystème aujourd'hui parle de la voix et donne la parole à Robin de Haas. Le Robin des voix, c'est le titre du film documentaire coproduit par la RTS, d'ailleurs, il faut le dire, qui sort le 9 février, mais qui est aussi en avant-première un petit peu partout en Suisse romande, pour faire découvrir cette histoire extraordinaire de Robin de Haas, qui accompagne aujourd'hui cette méthode MDH, coordination respiratoire. On voit effectivement dans le film documentaire cette coordination respiratoire. On voit aussi ces premières années auxquelles on faisait allusion qui étaient difficiles, jusqu'on ait le rouage entre l'homme d'aujourd'hui et le petit garçon. Finalement, cette voix que vous aviez du mal à faire parler, vous aviez du mal à faire entendre, est-ce que c'est le chant qui vous a aussi permis de vous faire entendre? C'était difficile de parler, mais est-ce que c'était plus facile de chanter, Robin de Haas?
La différence entre la voix parlée et la voix chantée, une des différences, c'est qu'en chant, on fait des longues voyelles. Et en fait, beaucoup plus longues qu'en parlant, hein, tout à coup, etc. Et du coup, je pense que le chant, enfin non, je pense pas, je sais que le chant m'a permis de réaliser que mes voyelles étaient encore très nasonnantes. Ça m'a aidé à prendre tout à coup à dire ah mais oui mais ah non là je n'y suis pas là. Et je crois que le chant a contribué à continuer de rééduquer en fait ma voix.
Mais comment se rééduquent aujourd'hui les enfants qui naîtraient comme vous avec cette fente? Comment est-ce qu'on les rééduque? Est-ce que le chant justement fait partie des possibles outils?
Je crois qu'à l'heure actuelle, on opère beaucoup plus tôt. C'est des opérations qui sont prises beaucoup plus tôt pour justement que l'enfant puisse développer sa parole en fait beaucoup plus vite et plus normalement. Donc je pense que les technologies ont changé en fait au niveau de toute la chirurgie du nourrisson en fait.
Mmh. Mais cette thérapie par le chant, est-ce qu'elle existe et de quelle manière, Robin de Haas? Est-ce qu'on peut rééduquer, réapprendre, redonner, je ne sais pas, confiance, un autre souffle, puisque c'est quand même votre sujet? La thérapie par le chant, elle est utilisée? Et oui, de quelle manière?
Alors, le chant, on pourrait dire que c'est une discipline, hein, quand on va faire du chant. Si on prend je prends un cours de chant, je prends un cours de saxophone, je prends un cours de piano, c'est une discipline musicale. Mais en fait, plus que ça, dans le sens où, quand on chante, en fait, il y a déjà l'utilisation de la voix. On chante plus fort que l'on parle, on chante plus haut, plus bas. Et en fait, déjà ça va favoriser l'utilisation de la voix. Mais aussi, quand on chante, on raconte des histoires. On va partager quelque chose, on va partager une émotion. Et pour partager une émotion, ça veut dire qu'on se donne la place de le faire. Si je partage une émotion avec vous, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que je suis là dans le rapport avec vous. Il y a moi qui vous raconte quelque chose, donc ça veut dire que je suis un individu. Et dans ce sens-là, le chant peut être extrêmement réparateur pour des personnes. Ce que j'aime bien dire, c'est que moi je suis pas du tout thérapeute, je suis un éducateur, mais que l'éducation, ça peut avoir des sacrées vertus thérapeutiques. Tout ce que je fais, c'est uniquement de mettre des mots sur des choses que l'on fait tous. Par exemple, au niveau de ce dont on parlait avant, du stress, je crois qu'en fait, tout le monde sent, quand on est stressé, qu'on prend trop d'air. Mais on met juste pas les mots, mais on se sent un peu agité avec cette espèce de pression comme ça. Et pareil pour la voix, moi je peux dire, la personne, elle a collé ses cordes vocales plus fort, mais on sent quand on écoute quelqu'un et qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas très envie d'écouter cette personne parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je viens simplement, de par la nécessité de mon parcours qui a fait que j'ai dû y réfléchir, je viens mettre des mots sur des choses en fait que beaucoup de gens ressentent.
Et qu'il y a des gens qui peuvent vous réciter l'annuaire, qu'on consulte plus d'ailleurs, hein, mais enfin vous raconter des choses absolument pas passionnantes. Certaines personnes vont vous emporter et d'autres vont vous laisser complètement de marbre. Il y a quelque chose de magique là derrière, Robin de Haas, ou même pas?
Ah si, pour moi en fait c'est alors là dans mon bouquin je parle de ce qui s'appelle la coordination neuro-émotionnelle. C'est en fait le lien entre les unités sémantiques et les unités de langage. Quand je parle de ça, ça fait un peu peur ces termes, mais les unités sémantiques, ça veut dire qu'est-ce qui a du sens pour vous, hein. Si je vous dis le mot arbre, si j'ai touché un arbre, si je suis allé l'après-midi en forêt et que j'ai touché l'arbre et j'ai senti son écorce, j'ai senti sa texture, j'ai senti sa chaleur, sa froideur, j'ai senti les aspérités qu'il a, l'arbre, au moment où je vais dire arbre, ce sera pas la même chose que si je dis juste le mot arbre. Et donc, pour moi, ça, c'est donc mettre en lien une unité sémantique du sens avec une unité de langage, le mot prononcé. Et lorsque on met en lien ces choses, d'ailleurs, beaucoup de grands artistes du chant en parlent, hein, des gens comme Fischer Dieskau qui disaient « Mais moi, j'ai besoin de peindre les leaders que je chante. » Donc, il va peindre les paysages qu'il va raconter après dans la musique qu'il chante. Et donc, pour moi, le lien avec le mot qui est raconté, et surtout le désir d'aller à la rencontre de l'autre avec du contenu qui nous touche. C'est ça qui fait toute la différence. Mais par exemple, il y a eu une recherche en lien avec le CERN il y a quelques années où ils ont pu analyser les ondes cérébrales et on a vu que quelqu'un qui parle avec une émotion va être amplifié dans le cortex des autres. Ça veut dire, si je vous parle, que je vous dis le mot arbre et que j'y crois et que j'ai une émotion dans ma voix à ce moment-là, eh bien, votre cortex va faire comme un petit amplificateur, il va vous faire entendre plus fort ma voix que ce qu'elle n'est émise. Et il semblerait que c'est pour protéger l'espèce humaine que quand un bébé pleure avec une grosse émotion, ben, il faut aller tout de suite le sauver et que donc c'est quelque chose qui s'est développé comme ça. Et puis aussi, il y a plein de recherches sur l'usage de la voix dans le chant, sur la science de l'acoustique de la voix, il y a des trucs phénoménaux, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Des gens vraiment extraordinaires comme le chercheur Ingo Titze qui vraiment a analysé des groupes de chanteurs qui se fatiguaient la voix, des groupes de chanteurs qui se la fatiguaient pas. Il leur a mis des capteurs, des électrodes pour voir quels muscles travaillaient, comment, combien d'air ils employaient, comment ça se passait. Enfin moi j'ai pris un plaisir fou à aller le rencontrer, Ingo. Et à dire bon alors ok t'as trouvé quoi comment etc non c'est génial d'aller justement vers ces gens vers ces sommités et on se rend compte que du coup on se sent vraiment tellement tout petit mais heureux d'être tout petit à côté de géants
et que c'est une exploration sans fin. Robin de Haas, ça fait quoi une vingaine d'années maintenant que vous êtes baigné dans tout ça et que vous êtes encore curieux de tout et que probablement encore des choses vont se présenter à vous parce que vos élèves aussi en même temps les formations que vous donnez vous font apprendre aussi encore toujours des choses.
Bah c'est super intéressant. Par exemple, l'autre jour, je travaillais l'air de Musette avec une chanteuse, une soprano, dans la bohème. On discutait de l'épaisseur de la voix de Musette, quelle sonorité on veut. Et on se rendait compte que c'est pas la même chose que Mimi, puis on se rendait compte du pourquoi, puis par rapport au personnage, à comment elle est dans l'histoire, et quelle est la patte sonore qu'on veut là. Et puis, droit derrière, j'avais un chanteur de hip-hop, et en fait, c'est finalement le même instrument, c'est la voix, mais en fait, c'est totalement différent. Et puis droit derrière, j'avais un psychiatre qui venait pour voir si des exercices de souffle pourraient aider ses patients. Et on parlait aussi de la voix comme moyen d'expression du trauma. Enfin, et donc j'ai l'impression tout le temps d'apprendre.
Et nous, on va apprendre beaucoup de choses, soit en vous lisant Robin de Haas, La voix de la voix, paru aux éditions Favre, soit en allant au cinéma, quelque part en Suisse romande, sur Robin des Voix, vous pouvez sur le site retrouver les dates des avant-premières et dire sinon que ce film signé Catherine Azad et Frédéric Gonzette sera sur les écrans à partir du 9 février. C'est votre histoire vraiment peu commune et merci infiniment de l'avoir partagée avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Can't hold it back, I can't take the tension. I'm trying to be good. Pour clore cette rencontre avec Robin de Haas, c'était Florence de Welch, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, Florence and the Machine, c'est le nom de son groupe, et bien elle fait partie aussi de ces artistes en situation de difficulté, de handicap, à qui finalement la chanson a redonné force et vie. Modération, Moderation, c'était le dernier titre choisi aujourd'hui par Willy de Zulu qui a concocté ce programme musical. Mathieu Ramsauer pour la réalisation de cette émission. Vous de l'autre côté, rts.ch pour rester en lien sur la page d'Écosystème pour écouter les émissions. Et à très vite, la semaine prochaine, nous serons de retour. Bye bye, très doux week-end à vous, il est déjà 14h.